de ce passage, c'est une prière que Moïse adresse à Dieu. Bon, bien sûr, le premier verset, on voit que Moïse parlait à Dieu face à face. C'est, alors, dans la suite, on voit que il ne pouvait pas voir sa face. Mais dans un autre passage, on voit que Dieu se manifestait d'une certaine manière. Il ne le voyait pas, il ne voyait pas sa personne, la personne de Dieu même, mais il voyait une image, quelque chose de qui était accessible. Donc Dieu faisait grâce et miséricorde à Moïse, parce que si il avait vu, il serait mort. Tout Moïse qu'il était. Mais nous voyons que Dieu parlait à Moïse d'une manière spéciale. Il y avait une communion, il y avait un entretien entre Moïse et Dieu. Et c'est quelque chose qui dépasse ce que l'homme peut imaginer. Comment un homme peut parler avec Dieu? Comment un être humain si petit et si faible, si limité, peut parler avec le souverain de l'univers? Peut parler avec celui qui a tout créé, celui qui est au-dessus de toute pensée humaine. Nous ne pouvons pas connaître la sagesse de Dieu. Elle est infinie. Elle est au-delà de toute la pensée humaine. On étudie, on fait des recherches en médecine, en biologie, en physique, et en chimie et dans les hautes études de l'univers, mais aussi dans l'infiniment petit, on se rend compte que ce que l'on sait est bien petit par rapport à tout ce que l'on ne sait pas. Eh bien, tout ce que l'on sait et tout ce que l'on ne sait pas, c'est Dieu qui l'a pensé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a donné. Vous avez des règles de mathématiques. Et je me rappelle d'un de mes amis qui était mathématicien, mais de très très haut niveau, professeur d'université. Et il m'a dit, tu sais, quand on étudie certains domaines des mathématiques, on est obligé de reconnaître qu'il y a Dieu. Parce qu'il m'a dit, il y a des relations, alors je ne veux pas aller, ma science s'arrête à ce que je vous dis, je ne vais pas plus loin, les mathématiques n'ont jamais été ma force, et même c'est plutôt ma faiblesse. C'est le reste aussi d'ailleurs, mais ça je ne le dis pas toujours. Il m'a dit qu'il y a des relations très fortes avec les chiffres 3, et c'est multiple, et avec le chiffre 40. Il y a des répétitions qui ne sont pas logiques mathématiquement, ce n'est pas mathématique, mais on est obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe avec certains chiffres, et le chiffre 7, etc., qui sont des chiffres que l'on retrouve dans la Bible, Mais donc tout cela pour vous dire combien Dieu est grand, combien il est immense, immense. Il dépasse tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Nous sommes des petits êtres de rien du tout. Nous avons une vie qui est, nous sommes arrivés mais déjà nous sommes partis. David disait, ma vie a passé comme une barque de roseau. Vous imaginez le Nil avec les barques de cette époque en roseau, et ça passe. Oh, mais on a l'impression que ça met du temps. Mais 10 minutes plus tard, elle est perdue de vue. C'est terminé. Elle est passée. Notre vie est petite. Elle est courte. Elle est faible. Nous sommes limités. Nous savons beaucoup de choses. Mais en fait, à côté de tout ce que nous ne savons pas, et nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et ce que nous pourrions savoir. Et même, on ne sait pas ce que l'on sait mal. Combien d'illusions. Et ce grand Dieu parlait face à face avec Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Je sais qui tu es. Je ne t'oublie jamais. Tu es toujours sur ma main. Tu es toujours dans ma main. Je te protège toujours. Je veille toujours sur toi. C'est quelque chose, vous savez. C'est cette parole, je te connais par ton nom. Et Moïse à l'audace de dire, tu m'as dit que tu me connaissais par mon nom. Vous voyez, dans la prière de Moïse, il y a des points de repère très importants. Notre Dieu, c'est sans conteste le grand Dieu immense que nous ne pouvons même pas imaginer. On a des petites représentations, mais méfiez-vous de ce que vous savez de Dieu ou de ce que vous croyez savoir de Dieu. parce que c'est dans nos limites humaines, les limites de notre intelligence. Et il faut relativiser beaucoup, parce que nous ne savons pas, nous avons une révélation, la révélation de Dieu dans sa parole. N'allez pas au-delà et restez dans ces limites-là. Si vous allez hors de ces limites, vous êtes dans la confusion, vous n'êtes plus. Mais ce Dieu si grand, eh bien, on peut lui dire, Seigneur, tu me connais par mon nom. Tu ne m'oublies jamais. Tu m'as fait des promesses. Ces promesses-là, je te les rappelle. Je te dis que tu as dit ça. Et Dieu aime quand on lui rappelle ses promesses et qu'on n'oublie pas ses promesses. Et il est bon d'avoir des promesses, de recevoir des promesses. Dans l'Épître aux Hébreux, hein, il est dit, ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu des promesses. Ils ont obtenu des promesses. Et il y a des personnes qui vivent la vie chrétienne et ils lisent leur Bible et ils sont dans une vie sans. Hein, je parlais du Nil, c'est un peu comme ça. C'est quelque chose de très plat et de très monotone. Mais il y a des personnes, il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies parlé. Que tu aies changé ma vie. Que tu aies changé. Même les options les plus grandes que j'ai prévues dans ma vie, je te demande, si tu veux les changer, change-les. Interviens dans ma vie, change ma vie. Il faut de l'audace pour ça. Il faut être Moïse ou vous, parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez obtenir des promesses. Vous pouvez dépasser une vie monotone, une vie qui coule comme un fleuve tranquille. Vous pouvez avoir une vie qui change, une vie qui compte, une vie qui remporte des victoires, une vie qui est vraiment une vie qui est vécue pour Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut pour chaque chrétien. Dieu veut que vous soyez des vainqueurs, pas de ceux qui subissent la vie, de ceux qui ont les. Voilà, c'est arrivé. Hein, on vit une certaine vie avec un certain fatalisme. Je connais des chrétiens fatalistes. Ah ben, ils ne disent pas comme les musulmans, c'est écrit, mais ils disent qu'est-ce que vous voulez? Il arrive ce qui doit arriver, hein. Combien de fois vous l'avez entendu? Et peut-être que vous l'avez dit. Mais Dieu nous a donné la capacité de triompher, de remporter des victoires. Les choses ne sont pas inexorables. Ce n'est pas. Ça devait arriver. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Il y a des millions de personnes dans la rue qui meurent sans Christ. Et il dépend de nous qu'elles entendent l'Évangile et qu'elles soient sauvées. Et il s'agit. Là, Paul, hein, Paul, excusez-moi, c'est Moïse. C'est pas ni David ni Paul. C'est l'autre grand homme de la Bible, le troisième, le premier, celui qui est venu avant les autres. C'est Moïse. Eh bien, Dieu lui parle en particulier, mais Moïse ramène toujours à l'essentiel. Et Dieu l'amène à lui. Il lui dit, je t'ai dit, et lui, il dit, mais moi et ton peuple, à chaque fois, hein, vous regardez, vous verrez, hein, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Donc il demande quelque chose pour lui, mais il se souvient qu'il y a le peuple tout entier. Et il demande une bénédiction pour lui, mais par rapport au peuple. Parce qu'il y a toujours ce peuple qui est sur les épaules de Moïse. Et si vous lisez, nous ne pouvons pas lire tous les textes, hein, mais vous verrez à plusieurs reprises quand le peuple est tombé et Moïse intercède pour le peuple, hein, parce que Moïse est un intercesseur. Si vous voulez faire une bonne étude sur la Bible, étudiez les prières de Moïse. et vous trouverez des choses très très intéressantes, parce que Moïse est un intercesseur. Il a dit non, mais Dieu avait dit à Moïse, je vais éliminer ce peuple et toi, de toi je ferai une grande nation. Et Moïse n'a pas voulu entendre cela, et il a plaidé pour le peuple. Il a dit, si tu me effaces ce peuple, efface-moi à moi aussi. Je suis solidaire du peuple. Je ne veux pas avoir une bénédiction que le peuple ne partage pas. Il y a la grandeur de Moïse. Souvent, nous, chrétiens, on préfère Paul, David et tous ces gens-là. Et Moïse, ben, c'est la loi. Mais il y a une grandeur de Moïse qui est beaucoup plus grande que vous pouvez imaginer. Hein. Il est vraiment un intercesseur et il s'est tenu en face de Dieu. Hein. Et vous vous rappelez l'histoire des tables de la loi ? Quand il est descendu, il a vu le peuple qui était en train d'offrir des sacrifices à une idole, et il a brisé les tables de la loi. Ce geste est terrible. Hein ? Dieu avait écrit la loi de son doigt sur la pierre. C'était les 10 commandements. Et Moïse a pris ces tables et les a brisées. Parce que le peuple est tombé dans le péché. Et en fait, il a brisé la loi pour que le peuple ne soit pas jugé par la loi. Parce qu'il est écrit que il ne fallait pas se faire d'image taillée. En brisant la loi et cassant les tables, il a brisé cette loi. Et le peuple ne pouvait pas être jugé. Il a remis l'écriture de la loi à une autre occasion. Et Dieu a dû réécrire. Et Dieu lui a fait le reproche, c'est ces tables de la loi que tu as brisées. Mais c'est par amour pour le peuple qu'il l'a fait. Parce qu'il portait dans sa main la loi qui condamnait le peuple qui était tombé dans le péché. Il était tombé dans l'idolâtrie, il était tombé dans la débauche, dans l'adultère et dans tous les crimes plus ou moins qui sont décrits dans les 10 commandements. Et il a cassé la loi. Mais ce n'était pas son rôle. C'est le Seigneur Jésus qui a brisé la loi. Ce n'est pas Moïse. Moïse est celui qui a apporté la loi. Donc vous voyez dans Moïse un caractère bien spécial. Hein, c'est quelqu'un qui est un intercesseur, qui se soucie du peuple. Mais nous devons être aussi des Moïse. On doit être des intercesseurs. On doit être de ceux qui se souviennent des autres, de ceux qui portent le fardeau des autres, celui qui aime les autres, celui qui est prêt à payer même de sa vie. Et s'il vous fallait mourir pour que des âmes soient sauvées, seriez-vous prêt à le faire ? La question un jour peut se poser. Et il y a des chrétiens qui ont été prêts, ils ont dit « Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Même si je dois mourir, j'irai jusqu'au bout. Je suis prêt à donner ma vie. » Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour notre salut, mais pour le salut des âmes, eh bien, il faut donner sa vie. Et beaucoup de chrétiens donnent leur vie à Jésus-Christ pour qu'il les conduise, pour en avoir des bénédictions. Mais Dieu répond rarement à ce désir égoïste. Si vous voulez avoir des bénédictions, elles passeront par la bénédiction des autres. Vous serez bénis d'abord. D'abord les autres, ensuite vous. Si vous voulez grandir dans votre vie chrétienne, c'est pour les autres. Vous voulez avancer, c'est pour les autres. Vous voulez que Dieu vous révèle quelque chose, c'est pour le transmettre à d'autres. Ce n'est pas pour votre enrichissement, pour votre... Et je me rappelle, oui, il est allé à cette réunion, c'est une expression hein, que certains chrétiens, je ne dirais pas la nationalité, disent. Il est allé se faire du bien. Il est allé se faire du bien. Hein, vous avez peut-être entendu ça. Mais on ne va pas se faire du bien. On va pour les autres, pour que Dieu nous enrichisse, pour que d'autres soient enrichis. Nous ne recevons jamais rien pour les autres, pour nous-mêmes, c'est aussi pour les autres. Nous sommes dépositaires d'un trésor pour que les autres en soient au bénéfice. Et je peux vous dire que quand Dieu vous montre quelque chose, il y a la tentation de le garder pour vous, de dire « oui, mais après, ils vont être grandir comme moi, et puis Dieu m'a béni. » Et c'est cette tentation-là, on la vainque. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes béni pour les autres, Dieu vous bénit davantage, et pour les autres, il vous bénit encore plus pour les autres. Et c'est, la nourriture que l'on reçoit qui doit être transmise aux autres pour qu'il y ait une croissance, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Mais dès que nous gardons pour nous-mêmes, eh bien cela se pourrit. Vous rappelez l'histoire, c'est toujours dans l'Exode, hein, l'histoire de la manne. Cette manne, elle devait être consommée. Il devait y avoir une nourriture quotidienne qui était cherchée, qui était reçue, mangée, et il ne devait plus en avoir pour le lendemain. Et le lendemain, on recommençait. Mais il y en a qui ont voulu garder, et ça s'est pourri. Ça s'est pourri. Et ce que vous gardez des bénédictions que Dieu vous accorde, c'est comme cette manne. Vous n'en aurez pas le bénéfice. Vous ne pouvez pas dire, je le garde pour plus tard. Plus tard, c'est trop tard. C'est fini. L'occasion est passée. Elle est perdue. Laissez-la dormir dans l'oubli. C'est fini. Passez à autre chose. Il faut grandir dans la vie chrétienne pour que les autres soient bénis. Mais quand nous ne grandissons pas, les autres ne sont pas bénis parce que nous sommes solidaires les uns des autres. Nous avons des complicités les uns avec les autres. Nous avons des liens fraternels les uns avec les autres. C'est ma bénédiction à moi, elle est obligatoirement la bénédiction des autres. Mais si je me relâche dans ma vie chrétienne, si je cesse d'être le chrétien que je devrais être, eh bien, les autres en souffrent. Comme ils sont au bénéfice de ma croissance chrétienne, ils sont au désavantage de ma perte de flamme, d'amour pour le Seigneur, d'amour pour les âmes et de toutes ces choses. Parce que nous sommes un corps, nous sommes solidaires les uns des autres. Et nous avons des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus précis que vous pouvez l'imaginer. Il y a de véritables liens les uns avec les autres. Je me rappelle l'histoire de cet homme. C'était au cours d'un grand réveil aux États-Unis. Et le prédicateur, il a réuni le conseil de l'Église. Il a dit un problème. Depuis 3 semaines, le réveil est en train de stagner. Il faut résoudre ce problème. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Parce qu'il n'y a pas d'âme sauvée. Depuis 3 semaines, il n'y a pas d'âme sauvée. Alors, je peux vous dire, si on se posait cette question-là, je crois qu'il faudrait s'interroger davantage. Mais à cette époque-là, il y avait 10, 15, 20, 100 personnes par week-end qui se convertissaient, hein. Ce prédicateur était un très grand prédicateur. Et alors, il dépendait de l'Église quand même, hein. Et alors, il a réuni l'Église et il a dit, il y a un problème. Et ils ont prié. Et il y a un frère qui a dit, écoutez, je ne sais pas, mais depuis 3 semaines, je ne prie plus pour le réveil. Je confesse que je consacrais tout le samedi après-midi pour prier pour le réveil. Et depuis 3 semaines, j'ai arrêté. Je ne le fais plus. Alors, il a confessé son péché. Il a dit, désormais, je vais le refaire. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le réveil a repris. Mais il croyait, lui, que sa prière était inutile, que s'il s'arrêtait de prier, les choses continueraient. Mais nous dépendons les uns des autres. Et nous avons besoin. Celui qui se sent le plus petit, celui qui se sent le plus faible, est absolument nécessaire dans l'Église. Et nous avons besoin les uns des autres. C'est une priorité. Votre vie chrétienne, la qualité de votre vie chrétienne est très importante. Pour vous, mais pour nous. Et moi, pas seulement pour nous ici réunis, mais pour l'Église qui est sur la surface de la terre entière. Nous ne savons pas comment une prière qui est faite ici a des répercussions jusqu'aux extrémités de la terre. Le mystère est grand. Je ne prétends pas apporter la réponse, mais débrouillez-vous. Moi, je vous dis, notre Dieu, c'est le grand Dieu. Il gère tout ça. Nous, nous devons être fidèles dans ce que Dieu nous demande. Et nous ne savons pas jusqu'à quel point ce que nous faisons a des répercussions jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu, parfois, vous fait entrevoir combien vous avez pu être utile parce que vous avez été fidèle. Dieu me l'a fait voir il y a quelque temps, hein. Et j'étais très étonné d'apprendre que des chrétiens étaient vraiment très encouragés, très fortifiés par des prédications qu'ils ont entendues sur Internet. Voilà. Mais je me dis, il faut que nous soyons fidèles et que nous fassions les choses que Dieu nous demande de faire. Après, les questions que nous avons et que nous nous posons, elles ont une réponse ou elles n'en ont pas. Et parfois, eh bien, il ne faut même pas poser de questions. Voilà, eh bien, les choses sont comme ça et elles sont comme ça. Et nous continuons à vivre notre vie chrétienne et à marcher fidèlement, les yeux fixés sur Jésus-Christ, en regardant vers lui. Cela fait partie de ce que nous lisons dans ce passage. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu as fait monter ce peuple, tu as fait toutes ces choses, mais tu vas pas les abandonner. Tu vas pas. Dis-nous qui va marcher avec nous. Hein? Alors, comment dire, c'était une bonne question. Nomme-nous l'ange qui va nous accompagner. Et vous savez la réponse. C'est le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Moi-même. Je n'envoie pas un intermédiaire. Je n'envoie pas même quelqu'un de très prudent, de quelqu'un de très compétent, quelqu'un qui peut vraiment. Non, je marche moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Comment dire? Quand le Seigneur Jésus-Christ est allé partir, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Hein, c'est un verset très précieux que j'aime beaucoup et que je me répète souvent. Hein. C'est parce que l'Éternel a dit, je marcherai moi-même avec toi. Et le Seigneur Jésus a donné la même réponse. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas encore à la fin du monde, donc le Seigneur Jésus est encore avec nous. Bon, et à la fin du monde, on sera dans sa présence, il sera toujours avec nous. Mais déjà, pour l'instant, c'est par la foi. Et c'est la même chose qu'il a dit à Moïse. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et le repos que Dieu nous donne, ce n'est pas l'absence de problèmes, ce n'est pas l'absence de soucis, mais c'est le repos de la foi, le repos de la confiance en Dieu. Il a dit, je marcherai avec toi. Alors je me repose sur la promesse. Il l'a dit. Alors je le crois. Je crois parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas parce que j'ai toutes les réponses, ce n'est pas parce que j'ai toutes les évidences, mais je marche dans le repos de la foi parce que Dieu l'a dit. Et combien de fois, eh bien, nous sommes sollicité par toutes sortes de questions, de choses. Oui, mais comment allons-nous faire demain? Et qu'est-ce qui va arriver? Comment? Toutes ces questions-là, elles trouvent leur réponse. Je marcherai moi-même avec toi. Alors, tes problèmes, tes soucis, tes difficultés, toutes ces choses, je les connais, puisque je marche avec toi. Je suis témoin de tout ça. Je le sais. Et c'est quelque chose de précieux, vous savez, parce que Moïse a plus d'une question. Hein, dans ce texte, il y en a trois. La première, c'est qui marchera avec nous? Qui vas-tu envoyer? Donc Dieu lui donne la réponse. Il lui dit, voilà, ben, je marcherai moi-même avec toi. Mais la deuxième question, c'est, fais-moi connaître tes voies. Parce que il voulait connaître qui marcherait avec lui, mais quelles étaient les voies de Dieu? Quels étaient les plans de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu? Quels étaient les commandements de Dieu? Toutes ces choses, hein, qui sont très importantes. Dans quelle direction je dois aller? Comment marcher? Mais Dieu a dit, je marcherai moi-même avec toi. Il suffit de marcher avec Dieu. Si Dieu marche avec nous, nous marchons avec lui, eh bien nous connaissons ses voies. Nous savons où nous allons. Parce que eh bien, c'est Dieu qui est avec nous. J'ai été enfant, hein, et j'ai eu un père. Et je me rappelle quand je me promenais avec mon père. Mais dans mes promenades avec mon père, je ne me suis jamais soucié de où en aller. Je faisais confiance, j'étais avec lui. Je me rappelle, bon, j'étais vraiment petit, hein, je marchais sur un mur qui était, hein, pas très large, il y avait la rivière en bas. Et mon père me tenait par la main, mais jamais je me suis dit, je risque de tomber dans la rivière. Mais si il ne m'avait pas tenu la main, je me serais demandé, est-ce que c'est bien prudent de marcher sur ce mur et je risque de tomber dans la rivière? Mais il tenait ma main. Alors je savais que je ne risquais rien. Parce que mon père était là. Et dans bien des circonstances, vous savez, je me rappelle, c'est ma petite sœur, hein, qui m'a raconté qu'elle était allée examen pour être médecin. Hein, et alors, je crois que c'est la première ou deuxième année, c'est les années les plus difficiles en médecine. Et alors, elle était effondrée, complètement. L'examen était là et tout. Et puis mon père était là accompagné. Et elle pleurait et il a sorti son mouchoir. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, qu'est-ce que je me souviens du mouchoir de papa? Mais un père, notre Père céleste, si un père humain est aussi compétent et aussi digne de confiance, a plus forte raison un Père céleste, notre Père céleste, notre Dieu qui a dit, mes voies, je vous conduirai dans mes voies. Je vous ferai suivre des chemins, je vous amènerai, je me ferai connaître à vous, je serai là à chaque instant, je ne vous abandonnerai jamais. Quand une mère abandonnerait ses enfants, moi je ne vous abandonnerai jamais. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand elles chancelleraient, moi je ne chancellerai jamais. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez être toujours, c'est les voies de Dieu. Mais attention, il ne faut jamais l'abandonner. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous. Et nous nous tenons loin. Et là, il nous arrive, nous avons des problèmes. Mais c'est quand nous désobéissons, quand nous nous écartons du chemin. Parce que Dieu n'a pas dit, faites n'importe quoi et vous n'aurez aucun problème. Vous avez des problèmes parce que vous avez fait n'importe quoi. Et ça arrive, hein. Et parfois, nous portons des problèmes pour le reste de notre vie. Parce que nous avons fait, à un moment donné de notre vie, eh bien, nous sommes écartés du chemin. Voilà. Après, on peut revenir à Dieu, Dieu de nouveau, mais il y a des cicatrices et il y a des marques de ce que nous sommes éloignés de Dieu. Mais Moïse a dit, il avait demandé à Dieu, hein, fais-moi connaître tes voies. Mais Dieu ne lui a pas donné de réponse là. La réponse qu'il a donnée, c'est, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. La vie chrétienne en Christ, c'est une vie de repos. C'est le repos de la foi. Hein. Peut-être à une autre occasion, je vous parlerai de cela. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. J'avais l'intention d'en parler un petit peu ce matin, mais je pense que faut pas aller trop loin. Mais c'est le repos de la foi. C'est le repos de la confiance. On a remis notre vie entre les mains de Dieu. On lui dit, Seigneur, qu'il en soit fait selon ce que tu veux. Selon tes plans et pas selon mes plans. Je repose ma vie, je remets ma vie entièrement, depuis maintenant jusqu'à la fin de mes jours, cette vie t'est remise. Elle est entre tes mains, elle est à ta disposition, fais-en ce que tu veux. Elle n'est pas pour moi, elle est pour toi. C'est dans ce repos de la foi, cette confiance, vous n'avez plus de projet pour dans 10 ans. Dans 10 ans. Mes pauvres amis, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on sait ce qu'on sera dans 10 ans? On ne sait même pas ce qui va arriver dans 1 heure, ou à peine. On soupçonne que dans 1 heure, on va pouvoir faire certaines choses, mais dans 10 ans. Faites pas des projets. Vous pouvez avoir des projets dans 10 ans, allez, je vous les laisse. Mais relativisez beaucoup, soyez prêts à changer si jamais Dieu vous dit de changer, de prendre un autre chemin. Mais Dieu a dit, je te donnerai du repos. Et c'est jour après jour, on marche avec lui dans la confiance et en regardant vers lui et en s'attendant à lui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est merveilleux que les choses soient comme cela. Et puis, il y a Moïse s'enhardit et il dit encore, il demande encore quelque chose d'autre. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Hein, c'est le verset 18. Fais-moi voir ta gloire. Eh bien, Dieu accède à cette demande. Il accepte. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est Moïse. D'abord, c'est Moïse. Mais ça peut être vous aussi. Ça peut être n'importe qui demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux marcher dans tes voies. Je veux t'obéir. Je veux vivre pour toi. fais-toi connaître à moi. Et je peux vous dire, si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, si vous êtes près de lui, si vous marchez pas à pas avec lui, si vous êtes dans la communion avec lui, il se révélera à vous. Il fera naître dans votre cœur des désirs, comme celui-là, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu n'a pas manifesté à Moïse sa gloire. Moïse a demandé de voir la gloire, Dieu ne lui a pas fait voir sa gloire. Parce que ce que Moïse attendait n'était pas du tout ce qui était possible. Hein. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Mais Dieu lui a dit, je te ferai voir ma bonté. Il voulait voir de la gloire, Dieu lui a dit, je te ferai voir ma bonté. Et je proclamerai mon nom devant toi. Voilà. En fait, c'est ce que l'homme pense. Et ce que Dieu pense, ce sont deux choses différentes. Même quand nous avons des aspirations très fortes pour certaines choses, nous ne savons pas ce que nous demandons. Et on ne sait pas ce qu'il faudrait demander vraiment. Et donc, Dieu ne lui parle pas de gloire, ou il ne répond pas à cela. Mais il lui dit, je te ferai voir ma bonté. Vous savez, la bonté, la miséricorde, la grâce, tout cela fait partie de la nature de Dieu. Si Dieu nous fait voir sa bonté, sa miséricorde envers nous, je peux vous dire, il y a des moments quand Dieu parle, qu'il vous montre qui il est, il passe à côté de vous, vous fléchissez le genou, hein. Vous ne pouvez pas tenir debout. Il y a un moment où vous dites, Seigneur, tu es plus grand et plus précieux que tout ce que j'avais imaginé. J'avais cru jusqu'à présent, et maintenant j'ai vu qui tu es. Je te vois si grand et si merveilleux. Je m'étais fabriqué un Dieu qui avait une certaine réaction, certaine ceci, certain ça. Mais en te découvrant maintenant, je m'aperçois que je m'imaginais que tu étais autrement. Mais ce que je vois maintenant est au-delà et bien plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer. Je m'étais tellement limité dans ma représentation de ce que tu es. Et Dieu lui a dit, je te ferai voir ma bonté. Et puis, il y a un autre enseignement que l'on peut voir, c'est qu'il dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Mais le rocher, c'est Christ. Dès que l'on veut, on doit voir quelque chose de Dieu, c'est en Christ. C'est posé sur le rocher qui est Christ. Et même dans cette vision de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu, eh bien, il nous protège, il nous met dans le rocher, dans un creux du rocher. Et c'est en Christ, c'est posé sur Christ, reposé sur Christ, et en Christ que tout se passe. Nous n'avons pas de sécurité en dehors de Christ. Parce que voir Dieu, même de dos, c'est dangereux, parce qu'il faut être dans le rocher qui est Christ, dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. C'est Jésus-Christ a donné sa vie. Je suis lavé de mes péchés, réconcilié avec Dieu. Et c'est en Christ que je peux m'approcher de Dieu, que je peux connaître Dieu, que je peux vivre dans la présence de Dieu. Hors de Christ, je suis en danger. Parce que devant Dieu, c'est un juste juge. Il a un regard qui foudroie. Nous ne pouvons pas résister au regard de Dieu. Il est dit, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout, personne ne pourra tenir dans la présence de Dieu. Les genoux fléchiront. Et je me rappelle de cet homme, hein, il était violoncelliste. Et alors c'est beaucoup plus gros, c'est un violon plus gros. Et il jouait merveilleusement de ce violon. Et mes parents lui ont parlé de l'évangile. Donc, ne me parlez pas. Quand j'entrerai dans le ciel, Dieu dira, il me faut un violon. Viens jouer du violon pour moi. Tout ça, ce sont des vantardises, des paroles à la limite blasphématoires. C'est quel est l'homme qui peut se tenir devant Dieu avec un seul mérite. Nos mérites sont notre confusion. C'est nous nous présentons devant Dieu. Je suis un bon ceci, un bon cela. Je n'ai jamais fait ceci, j'ai jamais fait cela. Mais tout le reste nous condamne. Peut-être, bien sûr, ben, j'ai pas volé, j'ai pas tué, évidemment. Ben, parce que les lois ne nous permettent pas aussi. Hein. C'est, je suis pas en prison. Donc, je peux dire, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Mais, heureusement. Hein, c'est, mais le, devant Dieu, ça ne suffit pas. C'est, il faut autre chose. Il faut être dans le creux du rocher, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre protection. C'est lui qui est notre sauvegarde. Même en tant que chrétien, si je m'approche de Dieu, si je peux prier et si je peux dire « Seigneur, tu as donné cette promesse, j'attends que tu réalises la promesse, tu l'as dit, alors je le crois, je m'attends à toi, tu as fait la promesse. » C'est seulement parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix que je peux m'approcher avec assurance, avec audace du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans mes besoins. C'est parce que je suis dans le creux du rocher. C'est parce que Christ... je suis enseveli en Christ. Je suis protégé en Christ. C'est hors de la grâce. Le trône de Dieu, c'est le trône du jugement. C'est, vous voyez, je vous rappelle ce verset. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'est quelque chose de merveilleux, plus grand et plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est, ne vous cantonnez pas à des petites choses. Dieu vous a donné ce qui est immense. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il est dans ces paroles une grandeur, une puissance qui est bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Savez-vous ce que c'est? Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est quelque chose d'immense, immense. Dieu lui-même marche avec moi. Je rappelle l'histoire d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il marchait avec Dieu. Dieu accepte de marcher avec un être humain. Et cet être humain, c'est vous. C'est moi. C'est chacun d'entre nous. Mais c'est individuellement. On ne marche pas en groupe avec Dieu. C'est un chemin solitaire. C'est solitaire. D'humain. C'est Dieu qui est avec nous, on n'est pas seul. Mais Dieu est avec nous. Vous pouvez prier, vous pouvez avoir des réponses, vous pouvez être... Je me rappelle, je vais terminer avec cette histoire. J'étais commencé mon ministère en étant moniteur d'enfants. Donc j'étais dans un orphelinat. Ce n'était pas vraiment un orphelinat, c'était des cas sociaux. Donc les parents même ne voulaient pas de ces enfants. Mais ils étaient vraiment... Ils m'aimaient beaucoup et on avait beaucoup de... on avait bien sympathisé. On m'avait dit qu'ils sont très difficiles et puis ils n'étaient pas très difficiles, ils étaient très gentils. Il fallait savoir simplement les prendre. Mais bon, les garçons, je m'occupais des garçons, étaient pas très âgés. Tandis qu'il y avait des jeunes filles alors qui avaient 16, 18 ans et même davantage. Et on avait tous les mercredis, une fois par mois, il y avait, si ma mémoire est bonne, c'était Connaissance du Monde. Voilà, je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est des reporters qui allaient un peu partout dans le monde. Ils filmaient des choses et puis ils revenaient. Et c'était des films qui étaient muets, mais la personne parlait et commentait le film en même temps. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais donc, ces jeunes filles, je les accompagnais une fois par mois. Et au retour, on passait devant une caserne. Et alors, les jeunes filles, elles n'étaient pas très... Hein, une vie pas trop, trop droite. Hein. Et alors, on passe devant la caserne. Et puis, à un certain moment, il y avait des gens qui marchaient derrière. Alors, j'ai dit aux jeunes filles, on avance plus vite. Hein. On ne va pas traîner. Et puis, les pas derrière marchaient plus vite. Et c'était des chaussures de soldats. Et j'ai dit, Seigneur, si dans 5 minutes tu n'es pas intervenu, on va avoir des problèmes. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je peux le prier n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Vous savez ce qui s'est passé? À la seconde même, une voiture... s'est arrêté le long de nous. Et puis, il y a un monsieur qui s'est penché. « Ah, monsieur le pasteur !» Cette personne, je l'ai rencontrée une fois avant. C'était la deuxième. Je ne l'ai plus jamais rencontré après. Il avait une voiture si vaste qu'on pouvait mettre 9 personnes dans la voiture, le maximum que. Et s'est tassé là-dedans et on est parti. Dieu est intervenu instantanément. Parce qu'il a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu répond aux prières. Il intervient. Et je pourrais vous raconter, quand j'ai fait mon déménagement, fin du mois dernier, début de ce mois, combien de fois Dieu est intervenu. J'ai crié à Dieu. J'étais seul dans mon appartement, avec tout mon bazar, et à refaire un appartement. Il fallait que je le fasse. Et je n'avais personne. Et j'ai crié à Dieu. Et les personnes sont arrivées. Les choses se sont faites. Et petit à petit, tout, à la dernière seconde, l'appartement était libre, terminé, fini. Dieu a dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi, moi-même. Je n'envoie pas quelqu'un, même de confiance. C'est moi qui vais aller. Et c'est moi-même qui prendrai soin de toi. C'est moi-même qui écouterai tes prières. C'est moi-même qui répondrai aux prières. C'est moi-même qui apporterai la solution à tes difficultés et à tes angoisses et qui te consolerai. Je te donnerai du repos. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. Dieu ne nous a pas donné un salut qui est, comment dire, d'une qualité inférieure. Il nous a donné le maximum. Il ne peut pas donner plus que ce qu'il a donné. Mais nous sommes responsables et nous devons vivre de cela. Hein? N'oubliez pas les autres. N'oubliez pas que vous ne vivez pas tout seul. Vous vivez avec Dieu, dans la présence de Dieu. Mais soyez des chrétiens qui sont des fontaines jaillissantes. Toutes les bénédictions que vous avez, qu'elles rejaillissent sur les autres. Vous êtes bénis, vous êtes heureux en Christ, vous marchez avec lui. Il faut que les autres en aient le bénéfice. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. La vie chrétienne dépasse largement ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas une vie monotone et sans aucune aspérité, mais c'est une vie exaltante. C'est la vie la plus merveilleuse qui puisse exister. Quand on parle de la vie chrétienne et de comment le Seigneur répond aux prières, comment il exauce, il y a une exaltation. C'est quelque chose de merveilleux. Ça dépasse tout ce que j'avais pu penser. Vous avez pensé que tout serait tranquille. Maintenant, je vais me frotter les mains, tranquille et vivre. Mon âme, repose-toi, jouis du bonheur. C'est pas du tout ça. C'est une vie d'aventure, une vie où il y a des difficultés et des problèmes et tout ça. Mais Dieu est toujours avec nous. Il veille sur nous. Il nous encourage, il nous fortifie, il nous donne des promesses. C'est merveilleux. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Nous allons chanter donc.